sorte que...
Voilà, bonsoir à toutes et à tous. Non, mais je chauffe ma voix là. Bonsoir à toutes et à tous. Super. Voilà, alors on est très heureux d'être au milieu de vous ce soir et je suis content de voir Étienne aussi. C'est celui qui me remplace à l'église là-bas à Fontenay. Donc il est venu avec sa petite famille passer quelques jours chez nous. Puis je vois José, Béatrice, salut José, content de vous voir aussi. Les Parisiens viennent en Alsace, hein, et les anciens Parisiens restent en Alsace. C'est bien, je vous encourage. En tout cas, voilà, quand Luc et Manuela sont passés mardi soir à la maison, il n'était pas question que je prêche ce soir, mais le lendemain matin, il m'a envoyé un message comme quoi ils avaient besoin d'un remplaçant. Alors j'ai dit bien sûr ok, et le thème qu'il m'avait laissé c'était Emmanuel. Alors si je vous dis Emmanuel, vous me répondez, si vous êtes de bons chrétiens, vous connaissez votre Bible, alléluia. Donc voilà, moi je suis émerveillé, chaque année vous savez on fête Noël, bien sûr on dit, beaucoup de gens disent c'est pas à cette époque que Jésus est né, mais peu importe, on s'en fiche, il faut bien fêter la naissance de Jésus au moins une fois par an. Et ça tombe le 25 décembre, voilà. Et pour moi, ça ne me dérange pas. J'espère que ça ne vous dérange pas non plus vous-même. Mais on veut vraiment se rappeler que Jésus est venu sur la terre et qu'il s'est incarné. Il était Dieu, mais il était parfaitement homme aussi. Et ça, c'est quelque chose qui me touche. Et ce soir, je voudrais qu'on garde... Je remercie Émilie et son groupe pour toute la direction qu'ils ont donnée tout à l'heure. Mais je voudrais qu'on garde cet esprit d'adoration. Et à chaque point de ce message, qu'on puisse dire, Seigneur, je te loue pour telle ou telle chose. Vous êtes d'accord? On garde nos cœurs centrés vers lui et on veut l'adorer parce que on est venu pour cela ce soir. On est venu pour le rencontrer lui et pour lui apporter notre adoration. Alors je voudrais vous parler ce soir de l'incarnation, mais je voudrais vous parler des paradoxes dans l'incarnation. Vous savez, quand on lit par exemple dans Joël que le faible dise « je suis fort », que le pauvre dise « je suis riche », il y a comme des choses qui s'opposent là, n'est-ce pas? Et moi, je voudrais vous parler des paradoxes qui concernent justement l'incarnation. Et le mot paradoxe est tiré du grec, et le mot c'est paradoxos, de para qui veut dire contre, et doxa qui veut dire une opinion contraire à l'opinion publique, commune. Vous savez que chaque tic-tac de l'horloge humaine annonce la naissance d'un bébé, et il y a eu des billions de naissances qui ont eu lieu dans toute la course de l'histoire humaine. Toutefois, pas une n'a ressemblé à celle réellement de Jésus. Et je voudrais qu'on se tape sur 1 Timothée 3,16, qu'on puisse peut-être l'afficher si c'est possible, 1 Timothée 3,16. Et il est dit, et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Celui qui a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire. C'est un mystère qui est grand. Et il y a beaucoup de choses qui sont mystérieuses dans la parole de Dieu. J'aime beaucoup ces paroles et j'ai beaucoup réfléchi là-dessus quand Paul dira « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. » Dans la nuit où il fut livré, vous connaissez la suite. Il y a une révélation d'un mystère que Paul ne connaissait pas. Et quand il a reçu cette révélation, il ne l'a pas gardée pour lui-même, il a voulu la partager. Alors, cette naissance de Jésus, elle fut unique parce que c'est la naissance d'un homme qui est Dieu. Vous voyez, on commence déjà à entrer sur le terrain du sujet. Alors, c'est vrai que dans l'original, le mot grec « mysterion » donne le mot « mystère ». Et le mystère, c'est quelque chose qui ne peut absolument pas être connu, mais ce n'était pas la pensée de l'apôtre. L'apôtre nous parle du mystère de l'incarnation, mais il dit que c'est un secret que ne connaissent que les initiés. Moi, je suis content de faire partie des initiés, pas vous? Je suis content de faire partie de ceux qui reçoivent une révélation de Dieu. Et donc, pour les étrangers, c'est complètement incompréhensible. Mystérion, c'est la loi du silence qui est imposée par ceux qui sont initiés et qui connaissent. Donc l'incarnation, c'est une sorte de secret de famille qui n'est connu que par la famille, qui n'est connu que par la famille des enfants de Dieu. Donc c'est un mystère, mais un mystère qui a une signification évidente pour tous ceux qui aiment le Seigneur. Et comme je sais que vous aimez le Seigneur, Donc vous allez vous délecter du mystère que le Seigneur veut vous communiquer ce soir. Alors c'est vrai que le mystère contient un élément de paradoxe profond. Moi, quand je pense à Jésus, à la naissance de Jésus, à l'incarnation de Jésus, je pense à au moins 5 paradoxes. Et je vais vous les citer. Ce bébé se produit par cette ineffable union entre le Tout-Puissant et Marie de Nazareth. C'est un bébé qui est à la fois, écoutez bien, premier paradoxe, il est nouveau, mais il est aussi ancien. Il est pauvre, mais aussi il est riche. Il est petit, mais il est grand. Il est muet, parce que c'est un bébé, mais tellement parlant. Et puis le dernier paradoxe, il est aussi terrestre que céleste. Et pour lier la gerbe de ces 5 paradoxes, je dirais qu'il est aussi humain qu'il est divin lui-même. Alors j'aimerais qu'on s'attarde très rapidement, on n'a pas beaucoup de temps ce soir, mais on va survoler cela. Le premier paradoxe, tellement jeune, mais pourtant tellement ancien. Notre Seigneur béni n'a pas commencé son existence dans les tables de Bethléem, si vous le croyez, c'est déjà une erreur au départ. En fait, il n'a jamais eu d'origine. Il est le commencement et la fin, et il n'a jamais eu d'origine. Toute la Bible lui rend ce témoignage, et dans l'Ancien Testament, on peut lire ces textes, alors vous pouvez les regarder dans votre Bible électronique ou pas, hein. Ésaïe 7, 14, c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe, voici la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel, qui veut dire, merci beaucoup, ça veut dire que vous suivez. Et puis dans Ésaïe 9, 5, et j'ai beaucoup aimé tout à l'heure, ça nous a été rappelé pendant ce moment de louange, merci Émilie. Un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel et Prince de la paix. Et puis encore, ce passage qui se trouve dans Michée 5.1, « Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre des milliers de Judas, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. » Et puis on arrive au Nouveau Testament, vous connaissez tous le début de l'évangile selon saint Jean, où il est parlé « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Et puis, ce passage de Jean 5, 58, « Avant qu'Abraham fût, dira Jésus, je suis. » C'est extraordinaire cela. Et puis Jean 17, 5, « Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. » Étonnant, hein? Et puis Hébreux 1, 2, 6, « Dieu nous a parlé par son Fils, par lequel il a aussi créé le monde, que tous les anges l'adorent. » Que tous ses enfants l'adorent. Amen. Alors, pour moi, la Bible, c'est une énigme insignifiante si Christ commence à être ou à devenir parce qu'il est né d'une femme. Ce n'est pas à ce moment-là que le Seigneur existait. Il existait depuis toute éternité, d'accord? Mais c'est vrai qu'en fait, le Seigneur fut le seul qui n'ait jamais vécu avant qu'une mère vierge l'ait conçu. Alors, les étendues prodigieuses des temps qui ont précédé le premier Noël, ben, ce sont des étendues qui n'étaient même pas vides de Jésus. Dès les premières pages de la Bible, on a cette notion du Père, du Créateur, du Fils et du Saint-Esprit. L'Esprit se mouvait à la surface de l'eau. Et ces temps étaient imprégnés de sa puissance. Lorsque Christ apparaît dans les bras de sa mère, il avait déjà remué le monde. Il avait déjà créé le monde. Il avait même créé la mère qui va le concevoir. Vous vous rendez compte? Quel mystère! Et naturellement, il est vrai que le Jésus humain a commencé son existence terrestre à partir de ce premier Noël, voilà plus de 2000 ans. Et 5 minutes même avant que la Vierge ne le mette au monde, il n'y avait pas sur terre une personne qui soit semblable à lui, semblable à Jésus que nous connaissons et que nous aimons. Donc, il ne fut pas un produit de l'utérus. Il était le créateur de l'univers, le réalisateur de l'univers, et de toute éternité il existe, et cependant, il devient un enfant nouveau-né. Voilà le premier paradoxe. Ça va? Vous ne voulez pas partir en courant? On continue? Deuxième paradoxe. Il était pauvre, mais en même temps, il était riche. Alors, ça, c'est le second. Et le Nouveau Testament ne nous cache pas que Christ était pauvre, et au contraire, il établit que celui qui, le seul de toute l'humanité, possédait le privilège de choisir ses ancêtres. Vous savez ce qu'il a choisi comme famille ? Une famille de paysans. Il a choisi des pauvres pour venir au monde. Il est né dans une étable. Il est né loin des regards. Il est né dans la discrétion. Et il choisit en s'identifiant à eux de s'associer non pas à ceux qui ont, mais à ceux qui n'ont pas. Et c'est vrai que lorsqu'il vint sur la terre, il n'est pas descendu dans l'hôtel Hilton de Jérusalem, mais il a pris le plus pauvre des abris que quelqu'un a appelé un jour l'hôtel Une Étoile, à Bethléem. Et graphiquement, cela est établi dans 2 Corinthiens 8-9, car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. Et j'aimerais qu'on continue à l'adorer. Par sa pauvreté, vous avez été enrichis. Par sa pauvreté, j'ai été enrichi. Et ce n'est pas par sa richesse que nous sommes devenus riches, mais nous sommes devenus riches en lui par sa pauvreté. Et certains millionnaires de notre monde, en devenant riches, ont fait beaucoup de pauvres malheureusement. Mais Christ, lui, en quittant la richesse de la gloire, il est devenu pauvre sur la terre, mais il a fait beaucoup de riches. Et ce soir, je peux dire, avec Christ, je suis riche. J'ai tout pleinement en lui. Est-ce que vous pouvez dire avec cet esprit d'adoration, j'ai tout pleinement en Jésus-Christ ? Il m'aime. Et ça, c'est le second paradoxe. Il était riche, il est devenu pauvre pour que moi, qui étais pauvre, je devienne riche. Extraordinaire. Comment voulez-vous que je n'aime pas Jésus de Nazareth ? Je l'aime, Jésus de Nazareth. Il est tout pour moi, mes amis. Et je veux toujours le suivre et le suivre jusqu'au bout. Amen. Et puis un troisième paradoxe, si petit et pourtant si grand. Aucun bébé, quand il naît, n'est très gros. Un bébé, ça peut peser de 6 à 9 livres. Mais le fait que le Dieu de 30 trillions de galaxies, de constellations, est devenu une petite tête d'épingle afin qu'il puisse pénétrer la race humaine, eh bien ça me bouleverse, ça nous bouleverse ce soir. Dans l'incarnation, l'infini, l'infiniment grand, devient infinitésimal. Quoi qu'en lui habite corporellement, nous dit la parole de Dieu, toute la plénitude de la divinité. Mais ce juif minuscule est le grand Jéhovah, et ça c'est le troisième paradoxe. Tout petit, bébé, mais il est le sauveur du monde. Moi j'aime beaucoup ce passage, vous savez quand ce vieillard est dans le temple, il sait que Jésus est né, et Siméon va dire ceci, « Seigneur, maintenant laisse ton serviteur s'en aller en paix, car mes yeux ont vu un bébé. » Oh pardon, je me suis trompé. « Car mes yeux ont vu ton salut. » Jésus, on ne le voyait pas comme un bébé de quelques livres, de 8 jours simplement. Siméon le voyait comme le sauveur du monde. Et ça, c'est extraordinaire, mes amis. C'est pour ça que quand je vois un bébé, je me dis, il y a le plan de Dieu pour la vie de ce petit garçon, de cette petite fille. Il y a le plan rédempteur, mais il y a aussi la destinée. On a parlé de Nathanaël tout à l'heure et de sa destinée. On le bénit au nom de Jésus, mais derrière chaque bébé, il y a un plan tout tracé du Seigneur. Donc, troisième paradoxe, il était petit mais très grand. Quatrième paradoxe, il était muet, mais tellement parlant. Fantastiquement incroyable, c'est la scène qui nous confronte lorsque nous pénétrons dans la crèche, la parole faite chair, incapable de parler. Ça va, vous réfléchissez bien ? Vous avez déjà vu un bébé ? Pas de dents. Un bébé ne parle pas. Un bébé ne peut que crier parce qu'il a faim, parce que l'oxygène peut-être agresse ses poumons quand il naît et il vient à la surface de la terre. Mais celui qui a formé, écoutez-moi ça, celui qui a formé nos organes, qui les a conçus par la parole qui était puissance, pour former une syllabe, cette parole pour s'exprimer, celui qui a donné un nom à chacune des myriades d'étoiles, qui est incapable de dire simplement le mot « maman » alors qu'il est dans les bras de sa mère. Et pourtant, Plus tard, on dira de lui dans Jean 7, 46, « Jamais homme n'a parlé comme cet homme. » À sa naissance, il était aussi muet qu'une poupée de chiffon. Le Tout-Puissant qui parle et les mondes viennent à l'existence était un bambin muet et la parole incarnée ne pouvait pas être articulée, ne pouvait pas être compréhensible, il n'était qu'un bébé. Est-ce que vous pouvez concevoir celui qui a combiné le processus mental, les mécanismes musculaires de la parole, muet dans les bras de Marie? Est-ce que vous pouvez concevoir ça ce soir? Et pourtant, lui, si communicatif, il le fut. Ses paroles ont été traduites dans presque chaque langue d'un pays connu ou de dialecte. Elles ont été étudiées par des générations, elles ont influencé l'homme, elles ont été incomparables. Et ça, c'est le quatrième paradoxe, c'est-à-dire que Jésus était muet, il ne pouvait pas parler, mais pourtant, tout a été fait par sa parole. Et lorsqu'il parle dans notre vie, sa main accomplit des choses extraordinaires. Moi, je veux l'adorer parce que celui qui est en moi est vivant. Et de plus en plus, il s'incarne dans ma vie. Le dernier paradoxe, c'est tellement terrestre, mais pourtant céleste. Vous savez, chaque bébé, c'est un mélange de caractère terrestre et de caractère céleste. Quand je vois un bébé, je ne peux pas voir un bébé conçu, né dans le péché, alors qu'il l'est vraiment. Hein. Vous vous rappelez, David, je suis né tout entier dans le péché, on est tous nés dans le péché, de parents pécheurs, etc. On a hérité de la nature du péché. Mais quand on voit un bébé innocent, avec un sourire extraordinaire, un bébé qui vous regarde et qui on craque quand on voit cela. C'est vrai ou pas? C'est beau un bébé, c'est magnifique. Mais rien ne peut être plus formé à la souillure qu'un petit enfant. C'est intensément, immensément physique. C'est un paquet de besoins biologiques. Ce qui est de la terre est terrestre. Et pourtant, rien non plus n'est plus céleste qu'un bébé. Son petit visage de chérubin, on aime. Son toucher doux comme celui d'un ange, son sourire étincelant et irradiant comme le flash de gloire. Un petit enfant, c'est la chose la plus céleste sur cette terre, tellement céleste qu'il y a même des anges qui sont chargés de le garder. Eh bien, le bébé de Bethléem n'était pas différent. Il était terrestre, il était normal, comme tous les enfants, mais dans une étable, là reposait le Créateur du monde, le sauveur du monde, et au même endroit, il y avait cette servante de quelques années simplement, cette grande adolescente qui tenait dans ses bras le premier-né, sans eau, sans feu, sans lumière, sans cuvette. C'était un vrai bébé avec des mains, avec des jambes, et il dormait, il criait, il faisait tout ce que fait un bébé, mais seulement lui, il était sans péché. Et cet enfant terrestre, c'était le Seigneur du ciel. Alléluia! Celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel, Jean 3, 13. Celui que nous attendons du ciel, 1 Thessaloniciens, chapitre 1er, verset 10. Tellement terrestre et pourtant tellement céleste, tellement humain et pourtant tellement divin. Voilà le paradoxe final de l'incarnation. Et bien aimé, devant ce mystère ce soir, de gloire, de révélation d'un amour incommensurable, célébrons joyeusement Noël, la naissance de Jésus, de notre merveilleux Sauveur. Et rappelons-nous ces paroles que nous lisons et que nous aimons lire. Quand j'étais à l'école du jeudi, à l'époque, c'était le jeudi, j'apprenais par cœur, un enfant nous est né, un Sauveur nous est donné. Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. Est-ce que vous voulez ce soir adorer le Seigneur simplement pour ses paradoxes, pour tout ce qu'il a été pour nous, ce qu'il est encore aujourd'hui, ce qu'il veut faire demain, parce que notre Seigneur nous aime d'un amour extraordinaire. Il est descendu, mais parce qu'il avait des projets de vie et non de malheur pour chacun d'entre nous. Et ce soir, alors que nous sommes à la veille du réveillon, nous allons fêter Noël en famille. Nous allons avoir des repas, des cadeaux, comme le disait Émilie tout à l'heure. Mais notre plus grand cadeau, c'est le Seigneur. C'est lui notre cadeau. C'est lui le numéro un de nos vies. Et ce soir, il veut nous dire qu'il nous aime d'un amour tendre. Il est descendu sur terre pour nous sauver. Il est monté à la droite de Dieu et il est assis à la droite de Dieu. Mais il continue à intercéder pour chacun de nous. Et ce soir, je voudrais lui rendre hommage, lui rendre gloire avec vous et dire « Il n'y a pas de plus merveilleux sauveur que Jésus-Christ de Nazareth. Il remplit ma vie, il remplit mon existence, il me conduit jour après jour, il m'instruit, il me montre la voie que je dois suivre, il a le regard sur moi, il est ma protection, il est mon tout, il est mon bien. » Et ce soir, mon cœur déborde de joie et d'adoration pour celui qui remplit toute ma vie et pour celui qui me conduit pas à pas. Amen. Est-ce que vous voulez lui dire merci ce soir, là où vous êtes ? Merci d'être descendu sur la terre. Merci de nous avoir rencontrés. Merci de nous avoir débarrassés de nos péchés par la puissance de son sang. Merci d'avoir fait de nos corps le temple de son esprit. Mais merci pour cette merveilleuse phrase qui dit « Christ en nous, l'espérance de la gloire ». Et plus le temps passe, plus Jésus prend de la place dans mon cœur. Mais je voudrais arriver à ce stade comme Paul qui dira « Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi ». Ça veut dire que c'est lui qui prend les décisions. Ça veut dire que c'est lui qui conduit toutes choses. C'est lui qui trace la route. C'est lui qui dit « Voici le chemin, marchez-y ». Voilà ce qu'il veut nous faire comprendre ce soir. Alors ma prière, c'est que jour après jour, de gloire en gloire, il me transforme par la puissance de son esprit et qu'il fasse de moi quelqu'un qui lui ressemble, quelqu'un qui manifeste cette gloire qu'il a sur lui. Et quand on regarde à Jésus, la gloire qui est sur lui, elle vient sur nous, elle se reflète sur nous et nous pouvons briller dans ce monde de ténèbres et dire « Nous sommes la lumière du monde et nous sommes le sel de la terre ». Alors en ce soir de presque de Noël, célébrons la victoire du crucifié, du ressuscité, mais célébrons aussi la venue de Jésus. Il est venu comme un petit enfant, il est reparti comme un homme victorieux, mais il reviendra nous chercher. Que son nom soit béni. Je veux magnifier son nom ce soir avec vous et lui dire, Jésus, je t'aime. Voulez-vous lui dire que vous l'aimez ? Pas du bout des lèvres, mais de tout votre cœur. Jésus, je t'aime. Ouais. Oui, vas-y, vas-y, vas-y. Allez, enflamme un peu la salle. Là.
Jésus, va. Je t'aime.
Yes. Et la voisine, par là ?
Jésus, je t'aime.
C'est bien. José Rovillon. Non, non, tu es dans l'église, hein. Tu es à Josué Guebwiller. Allez, tu vas me crier.
Yes, Jésus, je t'aime.
Amen, je sais que tu es un adorateur, hein, avec ton épouse. Amen, alléluia. Ça libère, n'est-ce pas ?
Ouais.
Mais il a besoin d'entendre nos cœurs s'exprimer devant lui. Alors n'oublions pas, nous sommes à Noël 2016. Mais avant toute chose, adorons celui qui est venu sur la terre pour venir nous chercher. Pour venir nous sauver et pour venir nous donner un plan glorieux, un chemin sur lequel marcher. Que son nom soit béni. Bonne soirée à toutes et à tous et à bientôt avec la joie de vous retrouver. Amen.